Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h11, le club de la presse numérique, les Français stars de l'intelligence artificielle. C'est le titre de ce club de la presse numérique ce dimanche en direct dans Soft Power sur France Culture. Cette semaine a été décerné le prix Turing, un prix créé en 1966 qui récompense des personnalités ayant réalisé des innovations majeures dans le domaine des sciences informatiques. Il est souvent ce prix comparé au prix Nobel, mais pour donc le numérique. Il récompense cette semaine 3 chercheurs pour leurs travaux sur les réseaux neuronaux et l'apprentissage profond, dont le français Yann Le Quin qui travaille chez Facebook. Ce soir, on revient donc sur leurs travaux et sur ce prix avec Gilles Fontaine de Challenge et Emmanuel Paquette de L'Express. Pour commencer, que sait-on, Emmanuel, des travaux qui ont été récompensés de ces 3 chercheurs, Yann Le Quin donc, mais aussi Geoffrey Hinton et Yasua Benjo?
Il faut savoir que ces 3 personnalités-là, déjà, se connaissent, 2 ont travaillé ensemble, et ont travaillé ensemble sur l'intelligence artificielle.
La construction des réseaux neuronaux.
Voilà, exactement. Alors, c'est une technologie qui existe maintenant depuis les années 60, qui a eu un développement dans les années 70-80, et qui a eu après, qui a perdu un peu son lustre, lorsqu'en fait un livre est paru et qui a détruit en fait cette technologie, disant qu'elle ne pouvait aboutir à aucun cas concret. Mais ces 3-là ont continué tout de même à se pencher sur les réseaux neuronaux. Les réseaux neuronaux, c'est en informatique, c'est des systèmes qui tente à copier un cerveau humain avec différents niveaux informatiques qui communiquent entre eux. Donc je dis tente bien parce que ça ne représente pas, ce n'est pas une représentation du cerveau humain, même si ça tente de le faire. L'idée derrière, c'est de dire qu'une machine avec des algorithmes peuvent apprendre par elle-même, avoir une forme d'apprentissage si on les entraîne suffisamment avec une capacité de calcul importante et suffisamment de données pour nourrir ces machines et faire évoluer en fait leur système à force de les entraîner.
Gilles Fontaine.
Alors je vais être un petit peu peut-être provocateur, mais je vais revenir sur la définition d'intelligence artificielle parce que c'est un petit peu la polémique qui monte justement. On en parle depuis quelques années et en France notamment parce que on a vu ces grands groupes dont Facebook qui a confié le développement de son laboratoire de recherche artificielle à Yann Le Quin, un Français. Google a créé son labo également à Paris. Samsung a recruté un Français, Luc Julia, comme là aussi le patron de ces recherches sur la recherche artificielle. Et beaucoup de chercheurs aujourd'hui disent l'intelligence artificielle n'existe pas en réalité. Et avec quelques exemples que je trouve assez amusants, qu'est-ce que les machines font de plus ou de mieux que l'homme? Alors on peut reprendre... Luc Julia a écrit un livre que je trouve très intéressant là-dessus. D'ailleurs, il a intitulé son livre « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Il fait remonter cette intelligence artificielle-là à Blaise Pascal et à sa fameuse Pascaline qui permettait surtout essentiellement, même exclusivement, de faire des additions, des soustractions. Si je vous demande d'additionner des chiffres 1332 plus 524, voilà, pas de réponse. Donc ça veut dire la calculette aurait déjà trouvé.
C'est parce qu'on est déjà perdu là. On était perdu dans l'exemple avec Pascal. Mais...
Alors si on va un peu plus loin et si on remonte à ce match légendaire entre Kasparov et Deep Blue dans les années 90.
Sur les échecs.
Aussi, dans les échecs, le grand maître s'est fait ratatiner par la machine. Mais là encore, il s'agit de... Les échecs, c'est un jeu fermé avec ses règles. La machine avait emmagasiné tous les jeux d'échecs, 10 puissance 50. Je crois que ça fait beaucoup de coups. Mais ces coups étaient enregistrés dans la machine. Et puis après, il y a eu la machine, le DeepMind, de la machine de Google. Il a sur un jeu beaucoup plus complexe, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de coups. La machine, une fois encore, a réussi à battre l'homme. Mais cette machine, c'est des milliers de processeurs. C'est une puissance de calcul phénoménale. Ça s'appelle un data center. J'ai fait mon calcul, 440 kWh pour faire simplement vaincre un grand maître. Et il ne sait faire que ça. Voilà. Et le grand maître d'échecs...
Ce que vous voulez dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est tout simplement des données, quoi.
Voilà, c'est
des big data.
Le cerveau humain, lui, il fonctionne avec 20 watts. Et il sait faire plein d'autres choses que de jouer au jeu de Go. Donc là encore, il faut ramener l'intelligence artificielle à ce qu'elle est. C'est-à-dire aujourd'hui, on a mis une couche supplémentaire dans effectivement ces calculateurs qui permettent de trouver très vite une solution à une équation bien précise. C'est effectivement le deep learning, c'est-à-dire des algorithmes qui permettent à la machine de continuer à apprendre toute seule.
Emmanuel Paquette, est-ce que le fait qu'un Français soit parmi ces trois lauréats ferait de la France un des acteurs clés de la recherche en intelligence artificielle ?
Oui, c'est évident, parce que comme le disait Gilles tout à l'heure, quand on parle des grands laboratoires qui ont pu ouvrir, ceux de Samsung en France par exemple, Uber aussi a décidé d'ouvrir un laboratoire d'intelligence artificielle avec un Français à sa tête à Paris, tout comme Huawei aussi, qui a un laboratoire d'intelligence artificielle à Paris pour les objets connectés, et pareil, c'est un Français qui a sa tête, donc on voit bien qu'il y a un vivier français. Faut savoir aussi que dans les trois lauréats, Joshua Bengio est né à Paris, de parents marocains, et qui à 12 ans a quitté Paris pour s'installer à Montréal, donc on peut dire qu'il est, si on veut être chauvin, à moitié français, donc sur les trois.
C'est la start-up nation de l'intelligence artificielle.
Exactement. Joshua Bengio, d'ailleurs, est le seul des trois aujourd'hui à travailler uniquement à l'Université de Montréal, à ne pas avoir cédé aux appels des grands groupes, des GAFA avec des chèques monstrueux. Geoffrey Hinton, lui, est à Toronto. Il travaille pour Google chez Google Brain. Il est senior vice president. Comme Yann Lequin, aujourd'hui, basé à New York en grande partie pour diriger l'ensemble des laboratoires de Facebook à travers le monde. Donc les deux sont chez les GAFA. Joshua Bengio, lui, a choisi de rester dans le domaine universitaire et d'ailleurs prend un peu de distance vis-à-vis de certaines recherches des GAFA, notamment ceux de Google et de Facebook. On en parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission, mais donc on voit que les parcours sont un peu différents, avec des formations qui sont quasiment les mêmes, c'est-à-dire des grandes universités françaises, donc notamment pour Bengio et notamment Bengio avant qu'il ne parte pour Montréal, et surtout Yann Lequin, donc parce qu'on a des grandes universités de mathématiques qui aujourd'hui sont à la base de ce qu'on appelle les réseaux de neurones et donc l'apprentissage profond des machines.
Sur cette question, Gilles Fontaine.
Qu'est-ce qui fait la spécificité française en matière de recherche sur l'intelligence artificielle? D'abord, on parle aujourd'hui de data scientist, comme ces spécialistes de l'IA, c'est-à-dire des gens capables de trouver ou de concevoir plutôt des algorithmes qui vont interpréter des montagnes de données et effectivement en faire quelque chose d'assez intelligible. À la base, ces gens-là, les data scientists, autrefois, on les appelait des statisticiens. C'était un petit peu moins sexy, mais c'est la réalité. La spécificité française, elle vient du fait qu'on a de grandes écoles d'ingénieurs, des gens qui sont très très bien formés, notamment dans les sciences mathématiques, parce que c'est avant tout des sciences mathématiques, et que en France, on est beaucoup plus sur la recherche fondamentale que sur la recherche appliquée. C'est-à-dire que les chercheurs français, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis notamment, les chercheurs français restent beaucoup plus dans leur labo, enfin en tout cas dans la recherche, qu'aux États-Unis. Donc on va un peu plus loin. C'est d'ailleurs un grand problème dans des universités comme Stanford en Californie, l'université de la Silicon Valley, où on déplore justement le fait que beaucoup d'étudiants quittent leurs études trop tôt, certains au bout de 2 ans, même sans leur diplôme, pour rejoindre des grandes start-up de la Silicon Valley, et qu'on a un petit peu mis de côté la recherche fondamentale.
Emmanuel Paquette, quelles sont les applications de ces recherches, que ce soit des réseaux neuronaux ou l'apprentissage profond, la voiture connectée, la reconnaissance d'image, le langage, etc.
C'est la raison pour laquelle ces trois lauréats ont gagné le prix. C'est simplement qu'aujourd'hui, dans tous les smartphones, quasiment tous les smartphones qu'on peut avoir dans nos poches, sont équipés d'intelligence artificielle, que ce soit pour les systèmes de reconnaissance vocale, les assistants personnels, que ce soit Siri pour Apple, que ce soit Google qui a le sien. Donc aujourd'hui, les grands opérateurs d'Internet ont développé leur système de reconnaissance vocale. Derrière, il y a les systèmes de reconnaissance faciale qui sont également extrêmement développés. Alors ça peut être dans la sécurité intérieure, ça peut être, comme on a pu le voir en Chine, pour des systèmes de notation des citoyens en fonction du comportement que vous pouvez avoir en tant que piéton, par exemple, puisqu'il y a eu cette histoire que vous avez dû tous voir, hein, d'une femme qui n'a jamais traversé la route et qui s'est vue verbalisée, tout simplement parce que sa photo était sur le flanc d'un bus, et donc l'intelligence artificielle a considéré qu'elle avait violé ses droits de piéton, et donc elle a été verbalisée. C'était une femme connue, pour le coup. Donc on voit aussi les erreurs de l'intelligence artificielle, pour revenir à ce que disait Gilles.
Mais ça, on peut penser que ça va peut se trouver des solutions.
Alors c'est ce que dit l'État chinois, justement. Donc,
donc je suis le porte-parole ce soir.
Mais effectivement, on peut se dire que les biais des algorithmes vont s'améliorer avec les erreurs qui peut y avoir.
Sur le langage, par exemple, où on dit que, enfin, il y a déjà de nouveaux processus en place, on trouvera une solution pour traduire de manière assez parfaite.
Aujourd'hui, il y a déjà des systèmes. Skype intègre un système de traduction automatique vocale. Donc, un Chinois pourrait s'exprimer avec un Français avec une traduction automatique. Alors, ça marche pas encore très très bien. Ça repasse généralement par du texte. Comme Google Translate, qui est aujourd'hui aussi de l'intelligence artificielle. Donc on voit que les sphères de l'intelligence artificielle sont vont très très loin. Ça peut aller aussi sur de la médecine, pour de la reconnaissance de tumeurs, sur de la radiographie, puisqu'aujourd'hui c'est un des cas les plus avancés très probablement en termes d'intelligence artificielle. Donc on voit l'implication, elle est très très large, sachant que les trois lauréats aussi, notamment l'un d'entre eux, donc Yoshua Bengio, a signé aussi récemment une charte pour éviter à ce que l'armée n'utilise l'intelligence artificielle, notamment pour les robots autonomes, et que des robots autonomes aient la possibilité de pouvoir prendre des décisions en direct et donc tuer des gens sans qu'il y ait une décision humaine derrière.
Zoé Sfez.
Non, mais sur cette question de l'intelligence artificielle et de la recherche fondamentale et de en termes de compétences en France, c'est intéressant aussi de noter que la science va très vite. On a très peu, on parlait à l'instant avec Pierre Mounier du rôle des sciences sociales, la recherche théorique avance moins vite que la recherche fondamentale et en mathématiques appliquées. Et la France pourrait faire partie des pays où il pourrait y avoir ce type de réflexion.
Gilles Fontaine.
Oui, parce qu'il y a en plus une réflexion sur la multidisciplinarité, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas, on se dit, il faut surtout pas laisser des matières aussi sérieuses uniquement entre des mains d'ingénieurs et d'algorithmes, parce que sinon on va droit à la catastrophe. Il faut embarquer des sociologues, des anthropologues, faire en sorte que on puisse donner, que ça profite à l'espèce humaine, en gros, à la fin de la journée, comme disent les Américains. Moi, sur l'interprétation des données, je suis quand même relativement moins optimiste qu'Emmanuel Paquette sur l'aptitude des machines à bien interpréter, à bien comprendre ce qu'elles voient. Et ce qu'elles doivent éventuellement en déduire. On prend juste Zoé l'image du petit chat que la machine va reconnaître. Il faut qu'elle voie en moyenne une centaine de milliers de chats avant de comprendre ce que c'est qu'un chat et de pouvoir le reconnaître instantanément. Un être humain, on peut dire qu'un enfant
de 3 ans,
il suffit qu'il voit deux chats pour comprendre ce que c'est qu'un chat.
Non, et puis la question des biais qui a toujours été importante dans la question des algorithmes et sur les intelligences artificielles est cruciale. C'est-à-dire, comme on est vraiment sur de l'apprentissage et de l'apprentissage profond, les biais, même si on ne les a pas pensés, existent, et c'est un des enjeux mais énormes de ces technologies de manière générale, et sur lesquels il y a énormément de critiques aujourd'hui, des sociologues qui travaillent dessus. Il n'y a pas encore de véritable pensée.
Si on prend l'exemple de Geoffrey Hinton, donc l'un des lauréats du prix qui a été attribué, il travaille chez Google, qui finance intégralement justement la dotation de 1 million de dollars qui accompagne ce prix Turing. Est-ce qu'il n'y a pas éventuellement un conflit d'intérêts? Question ouverte, Emmanuel Paquette.
Alors, on pourrait tenter de voir un conflit d'intérêts. Il se trouve que quand même en 2012, c'est Geoffrey Hinton qui a remporté un prix. C'était le prix ImageNet. C'est ce qui a relancé les réseaux de neurones et l'apprentissage profond comme étant une technologie forte pour le développement de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, à la suite de ce prix, Google a décidé de racheter sa société en 2013. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Geoffrey Hinton travaille pour Google et travaille chez Google. Donc on voit bien que s'il n'avait pas rapporté ce prix-là, et que ce prix-là avait été la base après de tous les développements qu'on a vus en intelligence artificielle ces derniers temps, on n'en serait pas là. Donc de ce point de vue-là, pour moi, il n'y a pas de conflit d'intérêt.
Sur ces questions, Gilles Fontaine.
Le vrai problème, ça va même au-delà, je pense, c'est que c'est la capacité, les moyens financiers de ces grands groupes américains ou asiatiques aujourd'hui à capter justement cette matière grise. C'est quand même très regrettable qu'aujourd'hui en France ou en Europe, on ait très très peu de grands groupes privés capables justement de retenir ces talents, sans parler de l'administration. Enfin, on pourrait imaginer que nos services de renseignement, par exemple, aient aussi besoin, et d'ailleurs ils en ont énormément besoin de ces talents, pour eux aussi rester dans le match de cette intelligence artificielle, parce que c'est un vrai match d'État. Je voulais apporter moi aussi deux petites interrogations pour conclure. Il y a deux problèmes. Donc le premier est déduit de ce que je viens de dire par rapport aux emplois, c'est-à-dire que beaucoup de ces talents vont vers les grands groupes et vont vers les GAFA notamment. Et puis je l'ai souligné aussi, les capacités, c'est-à-dire que pour faire fonctionner l'intelligence artificielle, on considère qu'aujourd'hui c'est plus de 5% des capacités de production électrique mondiale, et ça va aller croissant et croissant, et qu'il va falloir trouver autre chose d'ici 2030 probablement, une autre source d'énergie, ou peut-être l'informatique quantique pour effectivement bousculer l'échiquier, faire en sorte qu'on puisse continuer à faire progresser cette intelligence artificielle.
On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à Emmanuel Paquette de L'Express et à Gilles Fontaine de Challenge. Merci à vous, Zoé Sfez.